자, 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은
La parole de Dieu se trouve dans Matthieu chapitre 13 verset 44. Lisons ce seul verset deux fois. Matthieu 13 44. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. L'homme qui l'a trouvé le cache de nouveau et dans sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ.
Amen.
Prions pour pouvoir écouter le sermon de l'évêque Dongim. Prions pour que nous puissions le comprendre par le Saint-Esprit. Prions pour l'évêque d'abord, pour qu'il soit bien inspiré par le Saint-Esprit. Et prions pour nous aussi, pour que nous puissions avoir la même inspiration que celle de l'évêque. Prions.
Dieu
le Père,
merci de nous avoir bénis pour que nous puissions obéir à la bénédiction consistant à observer le jour saint pour te glorifier et pour t'adorer, que nous dépendions seulement de toi pendant cette heure précieuse et que nous puissions écouter attentivement ta parole pour pouvoir écouter la voix du Saint-Esprit pour pouvoir vivre. Je prie au nom de Jésus. Le trésor caché dans le champ, lisons le résumé du sermon d'aujourd'hui. Dieu est la source de la bénédiction. Pour faire connaître la bénédiction au monde, il lui a permis de la recevoir. Mais le monde cherche à trouver la bénédiction par conviction, mais il ne peut pas la recevoir. Il n'a pas compris la réalité de la bénédiction même. Même s'il y a beaucoup de trésors, si on ne peut pas voir la lumière, ces trésors sont inutiles. Si on n'est pas dans la connaissance, on ne peut que périr. Mais il y a eu enfin celui qui a trouvé ce trésor, c'est Dieu. Pour obtenir ce trésor, il a abandonné tout ce qu'il avait pour acheter ce champ. Ce champ est l'homme, ce trésor c'est l'âme. Son objectif, ce n'est pas l'achat de ce champ, mais c'est d'aimer le trésor caché de ce champ, c'est-à-dire l'âme. Il faut que nos âmes soient trouvées par lui pour être dans la gloire. Il faut que nous sachions que nos âmes constituent le trésor caché dans le champ. Il faut cultiver la terre et semer les graines, obtenir la graine pour que notre corps vive. Mais si on ne connaît pas le trésor caché dans ce champ, on ne peut qu'être pauvre. Dieu s'est abandonné lui-même pour obtenir ce trésor. Pour obtenir ce trésor, il a abandonné même son fils, le sang, la chair de ce dernier, même les cieux, pour acheter nos âmes, pour que nous soyons, nous brillons par le Saint-Esprit et par la puissance. Et nos âmes sont devenues une gloire pour lui. Mon âme, tu es le trésor de Dieu. Que le règne, la puissance et la gloire sont à toi, sont à Dieu pour toujours. Dieu est la source des bénédictions. La source, qu'est-ce que c'est, signifie? C'est le fondement, la racine. Donc, notre Dieu existait même avant que toute chose existe. Le monde spirituel, c'est-à-dire les cieux, a été créé par notre Dieu. Et notre Dieu existait seul avant l'éternité, avant l'existence des cieux. Lui, il existe par lui-même. À partir de ce moment-là, Dieu existait seul, c'est ça son attribut, c'est ça sa nature. Donc, lors de notre naissance, nous commençons à respirer. Alors, cette bénédiction appartenait à Dieu dès le début, c'est-à-dire que cette bénédiction est éternelle. C'est la raison pour laquelle alors nous devons donc et alors recevoir cette bénédiction que Dieu distribue. Il a créé les oiseaux du ciel et les a bénis pour qu'ils se multiplient sur la terre. Et il a créé aussi les poissons pour qu'ils soient féconds sur cette terre. Il a aussi béni les hommes pour qu'ils puissent être féconds et se multiplier sur la terre, pour qu'ils puissent remplir la terre. C'est ainsi que la bénédiction a été donnée à l'homme. C'est ainsi que la bénédiction est de quelque chose de réel et de puissant. Il y a eu donc un certain nombre d'oiseaux qui ont été bénis. Alors ces oiseaux ont rempli le ciel, les poissons ont rempli la mer et les hommes ont rempli la terre. C'est-à-dire que cette bénédiction est quelque chose d'efficace. C'est une semence en fait. On a semé une graine, par exemple. Alors, cette graine ne peut que pousser parce que cette graine a été semée dans la terre. Et ensuite, cette graine donne des fruits au centuple. C'est le principe hein, qui doit être respecté. C'est ainsi que la semence doit porter des fruits à 100, à 130. C'est ce qu'on appelle la bénédiction. Dans la bénédiction, c'est une multiplication, c'est une croissance. Voilà. Donc, il faut que nous connaissions donc, la signification, l'effet de la bénédiction de Dieu. Mais qu'est-ce que la bénédiction? C'est le bonheur de Dieu. C'est ça le sens de la bénédiction. La bénédiction, c'est la possession de Dieu. Tout appartient à notre Dieu le Père. Alors, vous et moi ont été donc bénis de lui et on lui demande de nous bénir parce qu'on veut obtenir ce qui lui appartient, ce qui lui possède. Donc, donne-moi ta bénédiction, cela signifie donne-moi ce que tu possèdes et donne-moi tes faveurs. Ce n'est pas lui qui, en fait, fabrique la bénédiction pour nous la distribuer lorsque nous la demandons. Mais la bénédiction vient de Dieu le Père, de même que le Saint-Esprit et le Fils proviennent de lui. Donc la bénédiction est possédée par lui. Donc la bénédiction ne peut que sortir de Dieu et il faut que nous possédions cette bénédiction qui provient de lui. Donc ce n'est pas lui qui, en fait, il ne faut pas penser à tort que Dieu crée une bénédiction pour nous la donner. Mais la bénédiction appartient à Dieu le Père dès le début. Donc il faut que nous l'obtenions tout simplement. Donc, il faut que nous prions pour que Dieu nous donne sa bénédiction. Puisque cette bénédiction appartient à Dieu le Père, nous pouvons l'obtenir. Donc il nous donne ce qui lui appartient et à ceux qui lui plaisent et à ceux qui sont bons à ses yeux. C'est ainsi que ce qui lui appartient est spirituel. Tout est spirituel pour notre Dieu. Donc, la bénédiction, c'est quelque chose de spirituel. La parole de Dieu est esprit. C'est ainsi que la bénédiction, c'est spirituel. C'est quelque chose de spirituel. Donc, Lorsque nous demandons à nous les demandons de nous bénir, on peut penser à tort qu'il nous donnera l'argent. Mais ceux qui ne croient pas en Jésus ne connaissent pas ce qu'est la bénédiction. Donc, ils imaginent seulement l'obtention de l'argent lorsqu'ils pensent à la bénédiction. Mais lorsque Dieu nous bénit, comment cette bénédiction se concrétise chez nous? Cette bénédiction est rendue visible, mais de quelle manière? Alors, Dieu nous bénit de quelle manière? Il nous a donné la bénédiction et la vie. La vie aussi lui appartient. Il faut que Dieu nous bénisse pour que nous puissions obtenir sa vie, parce que la vie et la bénédiction vont ensemble. Voilà, donc, comme l'intérieur et l'extérieur d'un objet. Donc, la vie et la bénédiction lui appartiennent. Donc, il faut que nous choisissions la vie et la bénédiction qui lui appartiennent. Et cette vie et cette bénédiction sont spirituelles. Alors, il a dit, « Ma parole est esprit et vie. » C'est ainsi que la vie et la bénédiction sont spirituelles. La bénédiction est le commandement de Dieu, son ordre et sa parole. Comment nous pouvons obtenir cette bénédiction? C'est via sa parole. Mais cette parole-là doit entrer dans nos âmes. Mais nous voulons faire une comparaison toujours entre l'âme et le corps d'une manière fausse. Nous avons une vie biologique qui est vraiment temporaire. Si nous la perdons, ce sera la fin définitive de notre chair. Et Jésus a nourri des milliers de personnes et c'est ainsi qu'il nous a montré un grand signe avec 2 poissons et 5 pains. Il ne nous a pas dit que il n'était pas nécessaire de travailler pour manger. Il a ramassé tout ce qu'il leur avait donné. C'est ainsi que la bénédiction matérielle, c'est quelque chose de temporaire. Par exemple, Dieu nous a donné une somme d'argent, mais d'une manière temporaire. Donc voilà, c'est une seule fois qu'il nous a donné cet argent-là. Mais nous pouvons perdre cet argent donné par Dieu au lieu de la garder. Et donc la bénédiction matérielle, c'est quelque chose de temporaire. Le signe qui a été montré par Jésus avec 2 poissons et 5 pains était aussi temporaire. Donc, il a nourri de nombreuses personnes, mais après avoir montré cette bénédiction, il a ramassé cette bénédiction. Donc, il s'est arrêté. Et il a aussi montré un signe. Au jour de noces de Cana, donc ce genre de signes peuvent être montrés par Jésus-Christ. Mais ces signes sont temporaires. Vous avez été guéri de votre maladie. C'est ainsi que vous avez obtenu une bénédiction de la part de Dieu. Mais c'était aussi temporaire. Ce n'était pas éternel. Hein, ce n'était pas répétitif. Donc, on avait été guéri de notre maladie, mais ça s'est fait une seule fois. Et c'est ainsi que Dieu nous a bénis. Mais pour garder cette bénédiction, il faut que nous fassions un effort. Par exemple, il ne faut plus pécher. Si on perd cette bénédiction, il faut la reprendre. Pour cela, il faut faire un autre effort. Par exemple, j'ai été guéri parce que Dieu m'a montré un signe. Mais je peux être attrapé par une maladie, par une autre maladie.
Pourquoi?
Il faut que nous rencontrions notre Seigneur Jésus-Christ. Un moment nécessaire. Pour le rencontrer, il y a eu un centenier qui a rencontré Jésus et il lui a demandé de lui donner sa parole. Alors, il l'a enfin rencontré. Donc, voilà ce genre de signe. Sont donnés d'une manière temporaire, non pas répétitive. Alors Dieu nous dit quoi? Il nous parle maintenant de ce qui est éternel, non pas temporaire. Il parle maintenant d'une bénédiction éternelle. Et à travers la parole, nous pouvons obtenir ce qui est éternel. Il est dit dans Nombre, chapitre 23, verset 20, Dieu nous a bénis, il nous a commandé sa bénédiction, c'est ainsi qu'il nous a bénis. Alors, je ne peux pas refuser cette bénédiction, je ne peux pas désobéir à cette bénédiction. Voilà. Et comment cette parole entre en nous, c'est cette bénédiction entre, cette parole entre dans nos âmes, non pas dans nos corps. À l'époque de Deluge de Noé, il y a eu un multitude de personnes sur cette terre, mais eux, en fait, ils n'avaient pas l'esprit. Ils avaient seulement la pensée, ils n'avaient que la personnalité, même les animaux peuvent penser, c'est pourquoi ils peuvent trouver des nourritures, la nourriture nécessaire. Les animaux n'ont pas le cœur, mais ils possèdent la personnalité, c'est pourquoi ils peuvent penser, ils peuvent trouver la nourriture nécessaire pour pouvoir survivre. De la même manière, les hommes, c'est-à-dire les Néphilim, n'avaient pas l'esprit, c'est pourquoi ils ne pouvaient pas recevoir la parole de Dieu qui était spirituelle. Ils n'ont pas de vase, ils n'ont pas de capacité qui leur permette d'obtenir la parole de Dieu qui est esprit. Alors c'est pourquoi Dieu a choisi un homme qui a été appelé Adam et il lui a insufflé un souffle de vie pour lui permettre de recevoir sa parole. C'est ainsi qu'Adam est devenu l'esprit. Donc il a pu posséder l'âme. Les Néphilim ont été totalement nettoyés sur cette terre. Ils ont tous disparu lors du déluge de Noé et une nouvelle ère de l'humanité a commencé. À partir de ce moment-là, les hommes ont commencé à avoir l'esprit qui leur a permis de recevoir la parole de Dieu. Et cette parole, seul esprit peut posséder la parole de Dieu, parce que cette parole est esprit. Celui qui vivifie, ce qui vivifie, c'est l'esprit, la chair ne sert de rien. Voilà, donc ce qui est charnel est temporaire. Seul l'esprit est éternel. C'est la raison pour laquelle, si nous mourons, nous ne pouvons qu'être enfuis sur la terre, mais l'âme est éternelle. L'âme est éternelle. Lors de la résurrection, lors de la résurrection, notre esprit sera transformé en clin d'œil. Donc, il y aura une transformation de notre esprit, un corps. Si nous recevons la parole de Dieu, si nous sommes bénis de lui, nos esprits peuvent être transformés en clin d'œil lors du moment de la résurrection. Ensuite, nous pourrons retrouver nos corps pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux avec notre Seigneur Jésus-Christ. C'est sa promesse. Et il nous a montré cette promesse. Donc, c'est ainsi que l'Esprit est très important. Il nous a donc commandé sa bénédiction, dont ce n'est pas notre corps qui obtient cette bénédiction, c'est nos âmes, c'est nos esprits qui peuvent posséder la bénédiction commandée par lui. Lorsque nous prions, il faut que nous soyons dans la clarté, dans la connaissance. Qui peut posséder cette bénédiction? Pour acheter un tel ou tel produit, il fallait un magasin. Et pour pouvoir régler une affaire, il fallait un bureau administratif. De la même manière, il faut que nous soyons dans la connaissance. Ce n'est pas le diable, ce n'est pas une idole qui peut nous bénir. C'est parce que seul notre Dieu possède la bénédiction. Donc, il faut être clair là-dessus. Il faut que nous soyons dans une connaissance parfaite de Dieu. Il est dit dans 2 Corinthiens, chapitre 9, verset 5, on parle des offrandes. Et qu'est-ce que les offrandes? Et alors, dans une version traduite, on utilise le mot « yombo », qui est la collecte en français. En version originale, et l'offrande, c'est quelque chose qui appartient à Dieu, c'est-à-dire la bénédiction de Dieu. Donc, c'est l'offrande, c'est la bénédiction de Dieu. Alors, les offrandes constituent la bénédiction de Dieu. Ce n'est pas donner à notre Dieu le Père ce qui nous appartient. Alors, l'offrande, qu'est-ce que c'est? C'est rendre à Dieu le Père ce qui nous appartient. Parce que la bénédiction appartient à lui, à Dieu. Donc, nous rendions ce qui appartient à lui lorsque nous lui donnons les offrandes. Mais si nous donnons les offrandes à Dieu par contrainte, par avarice, nous ne pouvons qu'être éloignés de lui. Il en est même pour la dîme. La dîme et les offrandes appartiennent à Dieu. Donc, il faut que nous soyons... dans la connaissance de cela. À ce moment-là, nous pouvons avoir une autorité. Qui nous permettent de conserver sa bénédiction. Donc, il est dit dans les Proverbes, chapitre 25, si nous avons décidé de donner quelque chose, un objet à Dieu, cet objet est devenu déjà sa possession. Donc, on ne peut pas revenir sur cette décision et on ne peut pas annuler cette décision. Dieu va réclamer coûte que coûte cet objet qui a été déjà donné lors de cette décision. Tout appartient à Dieu, mais la bénédiction est éternelle. C'est pourquoi, lorsque nous donnons les offrandes à Dieu, il ne faut pas que nous soyons avaricieux, il ne faut pas que nous soyons dans la contrainte, parce que nous devons être honnêtes, tout simplement, parce que lorsque nous donnons les offrandes à lui, il agit. Donc, donner les offrandes à Dieu, c'est lui rendre ce qui lui appartient. Donc, il nous a tous bénis. Il faut que nous reconnaissions cette bénédiction et il faut que nous lui rendions cette bénédiction donnée. Donc, il faut que nous soyons dans la clarté, dans la connaissance de cela. Mais comment nous pouvons-nous posséder cette bénédiction? Il nous commande cette bénédiction via sa parole. Donc, il faut que nous recevions cette parole, tout simplement. La bénédiction, ce n'est pas quelque chose de tangible et que nous pouvons toucher. En fait, il le bénit via sa parole. Donc, il le parle pour nous bénir. Mais parfois, nous méprisons sa parole. Mais Dieu nous parle pour nous bénir. Moi, je te donne ce qui m'appartient et que tu sois béni. C'est ainsi qu'il nous bénit. Donc, il faut que nous recevions cette bénédiction en recevant sa parole. Mais certains disent, Dieu parle seulement de la bénédiction par la bouche, mais tu n'as pas encore béni. C'est parce qu'ils veulent voir ce qui est visible et tangible. Mais il faut que nous sachions que cette bénédiction est spirituelle et éternelle. Et c'est pourquoi ce ne sont que nos esprits qui peuvent être bénis de lui. C'est notre esprit qui peut posséder cette bénédiction. Mais lorsque... Si je pose la question à un certain nombre de personnes, est-ce que vous avez été béni? Ils disent non. Est-ce que vous avez été béni? Alors, si je pose cette question à vous, il faut que vous répondiez à cette question positivement. Mais comment nous pouvons être conscients de la présence de la bénédiction de Dieu en nous? Est-ce que nous devons solliciter nos pasteurs de nous prier pour nous, pour que nous puissions vérifier si nous sommes, si nous avons été bénis ou pas? Nous avons été pardonnés de nos péchés. C'est ça aussi la bénédiction que nous avons obtenue de lui. Alors, si on avait été pardonné de nos péchés, nous avons été bénis. Est-ce que vous avez été pardonné ou pas? Il faut que nous sachions si nous avons été bénis de Dieu ou pas. Alors, si nous sommes dans cette ignorance, nous prions de manière répétitive et inutile et vaine. C'est ainsi que nous agissons de manière stupide. Donc, c'est parce que nous ne sommes pas sûrs d'avoir été bénis de lui. Mais il nous a donné le nom de Jésus. Il nous a mis dans nos cœurs le nom de Jésus. C'est ainsi que nous avons été bénis de lui. Le nom de Dieu lui appartient. Est-ce que vous avez cette bénédiction? J'en suis pas sûr. C'est ce que vous dites. Vous êtes toujours dans le doute. Vous n'avez pas de conviction. C'est pourquoi vous êtes toujours dans l'erreur et vous décevez Dieu. Lorsque Pierre marchait sur la eau, il ne l'a pas fait par conviction, mais il l'a fait. Par la foi, Pierre a dit, si tu es le roi, si tu es le Seigneur, ordonne-moi de marcher sur les eaux. C'est ainsi que Jésus l'a béni. Donc, Pierre a dépendu de lui lorsqu'il marchait sur les eaux. Mais lorsqu'il a commencé à douter, il est tombé dans les eaux. C'est pourquoi Jésus l'a reproché d'avoir douté. Parce que tu es venu jusqu'ici, pourquoi tu as commencé à douter? C'est pourquoi il est tombé dans les eaux. C'est ainsi qu'il a été... Il a déçu Jésus. Donc, si on maintient la bénédiction de Dieu, on peut réussir, mais si on la perd, on ne pourra périr. Dans le passé, on avait utilisé... Dieu a béni Abraham, et alors ce dernier a maintenu cette bénédiction jusqu'au bout. Alors, cette bénédiction de Dieu a été donnée à sa descendance de manière continue. Alors, en fait, les descendants d'Abraham étaient des vagabonds sur cette terre. Ils ne pouvaient pas s'installer stablement sur cette terre. Ils ont été tout simplement des vagabonds. Ils ont été ainsi dans la souffrance. Malgré cela, puisque Dieu marchait avec eux, puisqu'ils ont été ainsi bénis de lui, puisqu'ils ont été ainsi obtenus l'ordre de la part de Dieu. Ils possédaient toujours une foi et qui croyaient au Dieu unique qui les a bénis. Donc, est-ce que vous croyez en cette bénédiction? Comment vous pouvez comment vérifier si vous avez été béni ou pas? C'est via l'inspiration. En ce qui concerne les choses spirituelles, je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Sans le Saint-Esprit, personne ne peut appeler Seigneur Jésus, Seigneur le Christ. Comment pouvons-nous servir le Saint-Esprit? C'est notre esprit qui sert le Saint-Esprit, qui l'accueille. Alors, comment nous pouvons être sûrs d'avoir acquis le Saint-Esprit? C'est via l'inspiration de Dieu. Comment nous pouvons vérifier si nous avons été bénis ou pas? C'est via l'inspiration. Comment nous pouvons être sûrs d'avoir acquis le nom de Jésus? C'est via l'inspiration aussi. Donc, lorsque Pierre a acquéri un boiteux, il lui a dit, il a eu une inspiration qui lui a permis de dire, je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, c'est le nom de Jésus. Donc, c'était son inspiration qui lui a permis de le guérir, parce qu'il était sûr d'avoir été béni de Dieu. Alors, je te donne ce que j'ai, lève-toi. Ensuite, il a guéri, il a fait marcher ce boiteux. Voilà, donc, il en est même pour le don de guérison des maladies. Comment nous pouvons être sûrs d'avoir, de posséder la puissance de guérir les maladies? C'est parce que nous avons l'inspiration de la guérison divine. Nous avons l'inspiration qui nous a permis de guérir les maladies. C'est ainsi que nous sommes bien inspirés. Comment nous pouvons être sûrs d'avoir été pardonnés dans le péché? C'est parce que nous avons l'inspiration du sang précieux de Seigneur Jésus. Donc, à chaque jour du Seigneur, il faut que nous commémorions le sang, la chair de Jésus. À chaque communion, il faut que nous sommes dans la commémoration de Jésus. Mais on n'a pas cette inspiration, c'est ça notre problématique. Voilà donc, si nous sommes hommes de Dieu, Élie était homme de Dieu. Alors Élisée a demandé à Élie de lui donner une double inspiration. C'est parce que Élisée a eu une grande. Élie a eu une grande inspiration. Élisée voulait aussi avoir cette inspiration. Alors moi aussi, un jour, j'ai compris le tableau de la volonté de Dieu. À ce moment-là, j'ai obtenu une inspiration, une grande inspiration qui m'a permis de connaître sa volonté. Et alors il m'a dit, si tu demeures dans ma parole, demande-toi ce que tu veux. Si tu demeures dans ma parole, tu deviendras mon disciple. Pourquoi on prie? Prier, ce n'est pas tout simplement demander à Dieu ce que nous voulons posséder. Alors, je parle maintenant de l'inspiration que nous devons absolument posséder. Nous pouvons fabriquer des outils avec du fer, avec du feu. Alors, pour cela, il faut utiliser le feu et il faut aussi un souffle du vent pour faire fondre le fer. Donc, c'est ainsi qu'il faut que nous mettions du vent et du feu dans des matériaux pour fabriquer des outils. C'est ainsi que nous avons besoin de l'inspiration. Il y a une grande différence entre ceux qui possèdent l'inspiration dont je parle et ceux qui n'ont pas cette inspiration. Alors, quelle sorte de bénédiction il nous a donné? Si on n'a pas l'inspiration, on n'est rien, on est inutile. Dieu a donné à quelqu'un 5 talents. Alors avec 5 talents, nous devons être protectifs. À ce moment-là, il va nous féliciter. Celui qui a obtenu 2 talents, tout simplement, et a aussi quand même, récolter plus de choses avec ces 2 talents donnés par son maître. Mais celui qui a obtenu seulement un seul talent n'a rien produit de plus. C'est la raison pour laquelle il a été reproché par son maître. Ces jours-ci, je suis confronté à une grande crise. Beaucoup me critiquent, me reprochent. Mais la vérité va se révéler à 100%. Lorsque j'ai planté cette église, alors le quartier Singil a été un quartier pauvre où il y a eu beaucoup de stations de traitement des déchets. Donc il y a eu beaucoup de déchets dans ce quartier. Et il y a eu beaucoup de d'argile, de terre humide dans ce quartier. Et donc il y a eu alors trentaine ou quarantaine de personnes qui traitaient des déchets. Donc ça puait considérablement. Mais dans ce quartier, notre église a été plantée. Et on a jeté des excréments, des déchets dans ce quartier. Donc c'était vraiment sale. Mais je me suis déterminée à planter cette église dans ce quartier parce que moi, j'ai eu une inspiration qui m'a permis de voir l'avenir. Donc, j'ai commencé à emprunter de l'argent pour planter cette église. Et j'ai établi un plan visant à rembourser ces dettes pendant 10 ans à venir. Voilà, de certains, c'est que j'ai pu acquérir ce terrain. Que j'ai pu alors ce terrain. Et mais j'avais besoin d'une somme d'argent pour acquérir ce terrain. Je suis allé à la banque de Joron 21 fois. J'ai été vraiment méprisé par les gens de cette banque. Et j'ai été mise à la porte chaque fois que je suis allé les voir. Mais cette banque de Joheng a décidé enfin de prêter une somme d'argent, non pas à l'église de son art, mais à moi, parce que la banque Joheng a été vraiment surprise par mon comportement et par mon obstination, par ma volonté ferme. Mes sourcils sont devenus même blancs. Et à ce moment-là, il n'y avait que 7 personnes que j'ai planté cette église. J'ai demandé donc à Dieu de m'envoyer 10 âmes. Donne-moi 10 âmes, donne-moi 10 âmes. Je me suis concentré vraiment sur cette prière pour que Dieu m'envoie 10 âmes. Et le 5 octobre, j'ai pu enfin acquérir ce terrain pour construire ce centre de culte. Mais ce n'est pas été satisfait cela. Et cette église a connu une forte croissance. Et Et alors, j'ai rendu le culte dominical dans ce centre de culte 9 fois le dimanche. Et pendant sa soirée, j'ai rendu le 10e culte. Et en général, les pasteurs de grandes églises se reposent une fois tous les 7 ans, mais moi, je n'ai jamais bénéficié de ces vacances. Moi, j'étais vraiment comme un fou lorsque j'ai dirigé cette église. Alors, vous êtes inquiet de la dette de l'église, mais nous pouvons rembourser sans aucune difficulté la dette contractée auprès de banque. Alors, 10 ans après, j'avoir emprunté de l'argent et nous pouvons complètement achever le remboursement de cette dette de manière beaucoup plus facile. Et le terrain qu'on a acquis avec le crédit bancaire, le prix de ce terrain augmente de manière considérable. Bon, mon objectif, c'était tout simplement de maintenir le mouvement impéré, d'y réussir. Je voulais tout simplement planter une église et achever avec succès le mouvement impéré avec l'inspiration que Dieu m'a offerte. Il faut donc avoir l'inspiration du pastorat. Il faut qu'on possède cette inspiration. Moi, en fait, je me dis, Dieu m'a donné l'inspiration du pastorat. Moi, je possède cette inspiration. Et avec cette inspiration, je mène ce pastorat. C'est ce que je me disais tout le temps. Mais ces jours-ci, un certain nombre de personnes m'ôtent cette autorité, cette bénédiction. Si vous avez l'inspiration importante, et qui vous permet d'avoir une grande volonté, alors concrétisez cette volonté avec cette inspiration. Alors à ce moment-là, plantez une église avec vos propres forces, avec votre propre inspiration. Et il ne faut pas voler ce qui appartient à autrui. Alors si nous avons la bénédiction, si nous avons l'inspiration, Et nous pouvons, et alors, être efficace. Soyez assurés en ce qui me concerne, parce que nous sommes maintenant confrontés à un procès judiciaire, mais on peut gagner ce procès. Alors donc, attendez un peu plus. Moi, j'ai l'inspiration de la victoire. Donc, attendez un peu plus. Nous allons sortir vainqueurs. Nous avons besoin d'une inspiration qui nous permet de réussir. Bon, alors, cette église est une église mondiale. Et parce que j'ai eu une grande inspiration qui m'a permis de faire croître cette église. Si Dieu m'a donné 5 talents, il faut que nous soyons productifs parce que Dieu nous a donné 5 talents ou son inspiration. Mes bien-aimés, il faut que vous croyiez en la parole de Dieu. Dans le texte, il est dit que le royaume des cieux est semblable à telle ou telle chose. Par exemple, quelqu'un a trouvé un champ où se trouvent des trésors. Alors, cette personne a utilisé tout ce qu'elle possédait pour acheter ce champ. Alors, quelle est la forme du royaume des cieux? Quelle est la couleur du royaume des cieux? Où se trouve le royaume des cieux? Alors, ça peut être votre souci. Mais il est dit que le royaume des cieux est semblable à celui qui a trouvé un champ où se trouvent des trésors. Le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. Les cieux et le royaume des cieux ne sont pas séparables. Le royaume des cieux, c'est Dieu lui-même. Lui, il existe par lui-même dans les cieux, c'est-à-dire le royaume des cieux. Alors, ce Dieu a trouvé un trésor. Ce monde est un champ, selon la Bible. Alors, tout le monde possède le corps, mais comme je vous l'ai déjà dit, le corps n'est pas éternel, mais temporaire. On a beaucoup de rêves qu'on peut posséder avec la chair, mais on ne peut pas réaliser tous ces rêves. Il est dit qu'il n'y a pas de tombe dénuée de prétexte. Si on dépend trop de la chair, on ne peut pas réaliser tous les rêves qu'on imagine. Mais pour ces choses vaines, on cherche on veut réaliser ces rêves. Pour ces choses vaines, alors, quand j'étais petit, alors j'ai vécu à la campagne. J'ai un ami. Lui, en fait, il a travaillé dans une mine pour trouver des ressources premières naturelles. Il a semé des graines dans un champ. Il y avait beaucoup de pauvres dans ce quartier. Alors, il voulait donc semer des graines, des soja, mais il n'avait pas de récolte. Alors, ce n'était pas normal. Il y a eu beaucoup de pierres dans ce champ. Alors, mon ami a voulu examiner la qualité de ces pierres qui étaient une entrave pour lui. Mais suite à cet examen dans ces pierres, il y a eu beaucoup de pierres précieuses. Il a été vraiment surpris. Donc, il a acheté ce champ-là. Il n'avait pas d'argent pour l'achat de ce terrain. Mais il a emprunté de l'argent pour acquérir ce terrain. Et alors, il y est arrivé. Alors, Et il a gagné une somme d'argent considérable grâce à ses pierres. Maintenant, il est le gérant d'un hôtel et il fait beaucoup de choses. Il était un campagnard qui n'était rien, mais il est devenu un grand riche. Donc, il y a beaucoup de ses voisins qui voulaient trouver ces pierres contenant des pierres précieuses. Mais ce n'est pas n'importe quelle personne qui peut trouver ce genre de trésor. Qu'est-ce que c'est le trésor trouvé par Dieu, notre Dieu le Père? C'est nos âmes. Notre Dieu le Père disait que le monde est un champ. Mais Dieu a trouvé des trésors contenus dans ce champ-là et pour acquérir ces trésors, il a utilisé toutes ses possessions. Alors qu'est-ce que c'est nous-mêmes qui sommes plus précieux que la vie biologique, mais pour acheter nos âmes, qui constituent un trésor pour lui. Il a abandonné même son fils unique. Et ce dernier a abandonné tout son sang pour nous acheter. Il est dit dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 20, il a utilisé tout son sang pour nous racheter, pour nous acheter. Voilà, c'est ça l'Église qui a été achetée par le sang de Jésus-Christ. Il nous a ainsi acheter, qu'est-ce que c'est acheter? Qu'est-ce que c'est? C'est obtenir le droit de possession. C'est ça l'achat. Alors Dieu nous a demandé d'acheter la vie, d'acheter la grâce gratuitement. Pour acheter quelque chose, il faut utiliser un argent, n'est-ce pas? Il faut utiliser une somme d'argent, mais la grâce est quelque chose de gratuit. Mais pourquoi Dieu nous a demandé d'acheter cette grâce? Donc, il y a seulement un achat et une vente, et il y a comment un transfert du droit de possession. Donc, il faut acheter la grâce de manière gratuite. Mais il y a maintenant un processus de transfert du droit de possession. Donc, c'est ça l'inspiration que nous avons obtenue de lui. Il a utilisé toute sa vie, toutes ses possessions pour nous acheter. Alors, qu'est-ce que nous devons faire face à cet effort de la part de Dieu? Qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons aussi procéder à un achat gratuit, entre guillemets. Donc, il faut que le contrat d'achat et de vente doit être conclu entre Dieu et nous. Et ce que nous devons faire, c'est utiliser toute notre vie, toute notre volonté, tout notre cœur pour l'aimer, afin de posséder cette bénédiction, afin de recevoir sa grâce. Donc, le royaume des cieux est semblable à une personne qui utilise toutes ses possessions pour acquérir un champ où se trouve un trésor. De même que Dieu nous a acheté en abandonnant tout son même son fils. Ce dernier a abandonné tout ce qu'il avait pour nous acheter. Donc nous devons aussi faire cet achat pour posséder la grâce de Dieu d'une manière gratuite. Mais c'est la gratuité. Mais ce que nous devons faire, c'est l'utilisation de ce que nous avons. C'est-à-dire que nous devons dédier toute notre vie, tout notre cœur, toute notre volonté pour acheter la grâce de Dieu. Mais si vous êtes inactif, c'est parce que vous ne connaissez pas le royaume des cieux. Pour cela, pour y remédier, nous avons besoin d'une inspiration qui nous permet de connaître ce que c'est le royaume des cieux. Donc, nous avons besoin de l'inspiration de Dieu. Par exemple, il faut que nous ayons une inspiration qui nous permet d'être guéris de nos maladies. Voilà, donc il faut que nous ayons cette inspiration. Prenez le point que donne-moi l'inspiration nécessaire qui me permet de posséder ces possessions. Les Néphilim n'ont pas d'inspiration, mais nous avons besoin de l'inspiration. Il ne faut pas que nous soyons dénués d'inspiration. Et il faut que votre famille soit inspirée. À ce moment-là, vous pouvez devenir un possesseur. C'est-à-dire que vous pouvez posséder la bénédiction de Dieu. Vous pouvez posséder tout ce que provient de Dieu le Père. Donc, nous avons besoin de l'inspiration. Par la parole de Dieu, nous pouvons tout posséder parce que nous pouvons obtenir l'inspiration de sa parole. Prenez le point. Donne-moi l'inspiration. Donne-moi l'inspiration. Donne-moi l'inspiration. Donne-moi l'inspiration de la parole. Donne-moi l'inspiration de la parole. Donne-moi l'inspiration de la parole. Est-ce que vous voulez être pardonné de vos péchés? Donne-moi l'inspiration du sang précieux. Donne-moi l'inspiration du sang précieux. Donne-moi l'inspiration du sang précieux. Est-ce que vous voulez être sûr d'être devenu enfant de Dieu? Donne-moi l'inspiration du nom de Jésus. Donne-moi l'inspiration du nom de Jésus. Donne-moi l'inspiration du nom de Jésus. Est-ce que vous voulez posséder la foi? Et est-ce que vous savez si vous avez la foi ou pas? Donne-moi l'inspiration de la foi. Donne-moi l'inspiration de la foi. Donne-moi l'inspiration de la foi. À ce moment-là, vous pouvez hériter du royaume des cieux. Veuillez vous lever. Alors, comment nous devons réagir face à cet effort de Dieu? Achetez la grâce, achetez la foi, vendez tout ce que vous avez pour acheter ce trésor. Parce que nous sommes semblables un trésor et caché dans le monde. Voilà, donc achetez ce trésor, vendez tout ce que vous avez pour acheter ce trésor. Seigneur, donne-moi des dons du Saint-Esprit. Donne-moi l'inspiration qui me permet de recevoir les dons du Saint-Esprit. Alors, même si vous voulez recevoir des dons du Saint-Esprit, mais si vous n'êtes pas inspiré, vous ne pouvez pas les obtenir. Alors, même si vous les recevez, vous voulez les perdre. Même si vous avez reçu un don du Saint-Esprit, vous allez le perdre. Parce que vous n'avez pas d'inspiration nécessaire pour le maintenir. Donc, donne-moi la bénédiction. Donne-moi ta parole. Que j'ai l'inspiration qui me permet de recevoir ta parole. Il est dit dans l'évangile de Jean, celui qui a reçu la parole de Dieu étant Dieu, parce qu'il l'a inspiré, parce que c'est un être divin, c'est un être spirituel. Donc c'est en Dieu. Priez tous ensemble. Qu'est-ce que vous voulez demander? C'est l'inspiration, ok? Il faut que vous demandiez à Dieu de vous donner une inspiration.